Nous avons vu la dernière fois le point de vue de la bête de la mer, avec les 10 cornes et les 7 têtes, et les noms de blasphème inscrits sur les 7 têtes. Et on a vu également combien cette bête avait comme une espèce d'antithèse de l'image de Dieu en nous. La bête que je vis était semblable à une panthère, et ses pattes étaient comme d'un ours, et sa gueule comme une gueule de lion. Et le dragon lui donna sa puissance et son trône et un grand pouvoir. Alors je vous avais signalé ce point de vue très curieux, et l'une de ses têtes était comme égorgée à mort, et sa plaie mortelle avait été guérie. Il s'est répété plusieurs fois. Ça reste quelque chose de très mystérieux. Sûrement que la signification symbolique, puisque... Alors qu'est-ce que ça veut dire que l'une de ses têtes était comme égorgée à mort? L'intelligence blessée à mort. Je me demande toujours si c'est pas cette espèce de primat de la négation. C'est peut-être que ça, la blessure à mort de l'intelligence. Puisque c'est la mort de l'intelligence si la négation est première. Elle reste enfermée. Et sa plaie mortelle avait été guérie. Alors comment cette espèce de dépassement de la négation? Vous voyez, dans la pensée dialectique, c'est bien ce qui se passe. Or, au cœur de toutes les idéologies athées, il y a la dialectique. Je crois que seule la méthode dialectique conduit de fait à ce primat de la négation et au terme la négation de l'absolu, puisqu'on reste en immanence. Et c'est très net, si on regarde toutes les idéologies athées post-hégéliennes, sont toutes en dépendance de cela. Vous voyez, parce que c'est très curieux, c'est sûr que ça a d'autres significations. Mais la signification pour nous, dans notre monde d'aujourd'hui, c'est ça qui m'intéresse, vous comprenez? Je n'ai pas à regarder l'Apocalypse pour le Moyen-Âge. J'ai regardé l'Apocalypse pour la situation dans laquelle je me trouve actuellement. Et c'est cette lumière qui m'est projetée, qui m'est donnée. Bon, on sait très bien qu'il y a un phénomène tout à fait nouveau dans l'histoire de la pensée occidentale. Ce sont ces idéologies athées. Ces têtes sur lesquelles il y a des noms blasphèmes. Le blasphème suprême, c'est la négation de Dieu, Dieu n'existe pas. Et ces 7 têtes ont quelque chose de très particulier, c'est que l'une de ces têtes était comme égorgée à mort. Donc il y en a une qui donne la signification des autres. Je crois que c'est comme ça qu'on doit le comprendre. Étant donné qu'on insiste, on revient plusieurs fois là-dessus. Voyez l'antithèse du cœur blessé de l'agneau. C'est quand même l'antithèse. Le cœur blessé de l'agneau, c'est le signe de la révélation ultime de l'amour. La révélation ultime de l'amour se fait par la blessure de l'agneau. Comment le démon peut-il faire une antithèse de la blessure du cœur de l'agneau? Il ne peut pas par le point de vue de l'amour. Ce qui est très net dans toutes les idéologies athées, c'est que l'amour est rejeté. On ne parle plus de l'amour. L'amour est en dehors de la philosophie. C'est uniquement l'intelligence. Et l'intelligence qui se présente comme un absolu. Donc c'est du côté de l'intelligence l'antithèse de la blessure du cœur de l'agneau. Alors, si vous regardez ça de cette manière, vous pouvez voir que la blessure du cœur conduit à la transcendance de l'amour, et la blessure de la tête conduit à l'immanence de l'intelligence. Une espèce d'opposition très curieuse entre les deux. Ce serait intéressant à creuser, de voir le sommet de la révélation du côté de Dieu et cette espèce de grimace. Je crois que le démon est toujours en furie contre la blessure du cœur du Christ. Puisque la blessure du cœur du Christ, on le sait bien, l'apparition à Thomas montre le signe indubitable qu'il est bien celui qui est mort pour nous, celui qui n'a rien refusé dans l'ordre de l'amour. Et dans la gloire, c'est la blessure du cœur qui est le sommet de la gloire. Dans la mesure où il a été humilié, il sera glorifié. Donc c'est bien le sommet de la gloire, la blessure du cœur. C'est là où la gloire du cœur de Jésus et de Jésus glorifié est la plus grande. Alors on comprend cette espèce de rage de vouloir faire quelque chose d'analogue du côté de l'intelligence. Il me semble que du côté de l'intelligence, ce que nous voyons aujourd'hui, c'est ce qui conduit à la négation de l'amour. La blessure du cœur conduit à l'affirmation que Dieu est amour. Je crois que c'est au moment de la blessure du cœur où Jean est témoin, où Jean découvre que Dieu est amour. C'est pas dit, mais c'est quand même impliqué dans le cri de soif et dans la blessure du cœur. Alors, il faut cette espèce d'antithèse du côté de l'intelligence, qui est totalement différente et qui est la proclamation de l'autonomie la plus absolue de l'intelligence. Dans ce fait qu'elle se donne à elle-même sa vie. N'est-ce pas ce qui est au cœur de toute la dialectique? C'est l'intelligence qui se donne à elle-même sa vie. C'est une intelligence qui ne dépend plus de l'objet. C'est une intelligence qui ne veut plus dépendre de l'objet et qui veut trouver en elle-même, par son processus propre, découvrir en elle son propre développement. Et elle découvre en elle-même ce propre développement par le point de vue de la négation. La négation rejette toute dépendance à l'égard d'autrui. Et cette négation, alors vécue dans une intériorité, va être le point de départ de tout un processus de développement où l'intelligence trouvera sa propre autonomie et sa propre exaltation. C'est pour ça que je crois qu'on peut dire que l'une de ses têtes était comme égorgée à mort et sa plus mortelle avait été guérie. Guérie dans cette espèce d'exaltation immanente de l'intelligence pour elle-même. Et la terre entière, étonnée, suivit la bête. C'est tellement ça. La dialectique devient la forme de pensée universelle. Vous ne pouvez plus penser autrement. Ça, c'est très net. Vous ne pouvez plus penser. Et même la théologie, ça pénètre jusque dans la théologie. Vous voyez, Pannenberg. Pannenberg, c'est très nettement une théologie qui est uniquement avec une méthode dialectique. Le père Henri travaille Pannenberg, je lui dis de bien le travailler pour qu'il puisse vous faire un ou deux cours sur Pannenberg. Parce que plus il le travaille, plus il me dit, je crois que c'est en effet le plus fort, les autres sont pas grand-chose à côté. Et moi, on m'avait toujours dit ça. Le père Leroy m'avait dit, c'est le plus fort. Vous voyez, quand vous introduisez la dialectique comme méthode de la théologie, vous supprimez la foi. Et c'est net, c'est la suppression de la foi. On comprend très bien que c'est cela qui est l'antithèse la plus violente du coup de lance. Il faut y réfléchir, parce que si c'est ça, vous comprenez, c'est quand même extrêmement, pour nous, c'est extrêmement intéressant de voir que la bête de la mer aboutit à la destruction de l'intelligence. Proclamer que Dieu n'existe pas. C'est la perversion de l'intelligence. Et c'est vrai, la perversion de l'intelligence, c'est ce qu'il y a de pire. Alors, au terme, ça aboutit à cela. Et la terre entière étonnée suivit la bête. Et on se prosterna devant le dragon, parce qu'il avait donné le pouvoir à la bête. Et on se prosterna devant la bête, en disant, qui est semblable à la bête et qui peut lui faire la guerre. Donc, c'est inutile, on est battu d'avance. C'est ça, on enlève l'espérance. On détruit le support de la foi et on détruit le support de l'espérance. Le démon ne peut pas faire autre chose. Le démon ne peut pas attaquer directement les vertus théologales. Mais ce qu'il peut faire, c'est attaquer directement ce par quoi l'intelligence est capable de recevoir la foi. Il prend boule à fidèle. Ça, il peut. Il peut attaquer ce par quoi la volonté est capable d'être perfectionnée par l'espérance. Qui est semblable à la bête et qui peut lui faire la guerre. Il lui fut donné une bouche qui disait des énormités et des blasphèmes. Il lui fut donné pouvoir d'agir pendant 42 mois. Et elle ouvrit la bouche pour blasphémer contre Dieu, pour blasphémer son nom et son séjour, ceux qui séjournent dans le ciel. Donc la contemplation est le nom de Dieu. Il lui fut donné de faire la guerre aux saints et de les vaincre. Il lui fut donné pouvoir sur toute tribu, peuple, langue et nation. Et tous ceux qui habitent sur la terre l'adoreront. Ceux dont le nom ne se trouve pas écrit depuis la fondation du monde, dans le livre de vie de l'agneau égorgé. Oui bien, le nom de vie d'agneau égorgé et la blessure de la tête. Et c'est là le partage des eaux. C'est ça qui est si impressionnant. L'absolu d'une intelligence dialectique qui ne cherche que la vérité dans son propre processus naturel et la transcendance de l'amour donnée à travers la blessure du cœur de l'agneau. Si quelqu'un a des oreilles, qu'il entende. C'est un cri, ça. Donc ça veut dire, attention, entendez, comprenez. Vous n'avez pas le droit de négliger l'Apocalypse. Et vous n'avez pas le droit de ne pas chercher le sens de l'Apocalypse. Pour un théologien, ou une théologienne, si quelqu'un a des oreilles, qu'il entende. Si quelqu'un est pour la captivité, il va en captivité. Si quelqu'un doit être tué avec le glaive, il faut qu'il aille, qu'il soit tué avec le glaive. Ici, la patience et la foi des saints. Une fois qu'on est dans l'immanence de la dialectique, on est dans la nécessité. Il n'y a plus rien à faire. Et vous trouvez la même nécessité au point de vue proprement psychologique. Très curieux. Parce que la dialectique hegelienne appliquée à la psychologie vous donne le freudisme. L'humanisme est une dialectique psychologique. C'est pour ça que tout est dans l'ordre de la nécessité, une fois que vous avez mis le petit doigt dedans. Et je vis une autre bête monter de la terre. Alors ça, c'est la puissance. Vous remarquez que la bête de la mer ne dit rien. Elle est totalement téléguidée. Entièrement téléguidée. Ça dit beaucoup de choses. C'est le démon qui aime de prendre possession des intelligences pour y demeurer et en faire son séjour. Je vis une autre bête monter de la terre. Alors, elle, il n'y a plus de tête. Mais comme c'est curieux. Le dragon demande à la bête de la mer l'alliance de l'offrande de son intelligence. On ne peut offrir son intelligence qu'à Dieu. On ne peut pas l'offrir au démon. Et la bête de la mer demande impérativement à la bête de la terre d'être entièrement relative à elle. Alors ici, il y a l'opposition par rapport à l'agneau, semblable à celle d'un agneau. Alors si vous mettez le sacerdoce et la victime, vous voyez, la bête de la mer et la bête de la terre. Et elle parlait comme un dragon. Et tout le pouvoir de la première bête, elle l'exerce devant elle. Elle fait que la terre et ceux qui y habitent adorent la première bête, dont la plaie mortelle a été guérie. Et elle fait de grands signes. Ça, c'est très important. La toute-puissance, l'apparence de toute-puissance de la bête de la terre. Elle fait des semblants miracles. Elle voudrait faire des miracles. Elle ne peut pas, au sens absolu. Elle peut faire des prodiges. Et elle fait de grands signes jusqu'à faire descendre le feu du ciel sur la terre devant les hommes. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Le feu du ciel le fait descendre sur la terre devant les hommes. Vous savez bien toute l'histoire de Prométhée. Tout ce que dit Platon, c'est l'accaparement du feu qui permet à l'art de se développer, qui permet donc à la technique, symboliquement, on comprend bien, elle fait de grands signes jusqu'à faire descendre le feu du ciel sur la terre devant les hommes. Un primat absolu de ce que représente les œuvres artistiques, le facere humain. C'est là où elle collabore. C'est là où elle pousse jusqu'au bout. C'est là où elle s'introduit. C'est très curieux de voir comment la bête de la terre s'introduit dans l'efficacité des techniques, dans l'efficacité des œuvres humaines. Je crois que c'est ça que ça veut dire. Ça veut dire aussi autre chose. Mais encore une fois, pour nous, c'est ça qui m'intéresse. Et elle fait de grands signes jusqu'à faire descendre le feu du ciel sur la terre devant les hommes. Et elle égare ceux qui habitent sur la terre à cause des signes qu'il lui a été donné de faire devant la bête, disant à ceux qui habitent sur la terre de faire une image pour la bête. C'est plus des icônes pieuses, c'est des icônes de la bête. Et c'est par en liturgie. Ces liturgies qui sont celles de la bête. Tout à fait normal qu'on mette toute la technique, tout l'art au service de la bête. Elle égare ceux qui habitent sur la terre à cause des signes qui lui a été donné de faire devant la bête, disant à ceux qui habitent sur la terre de faire une image pour la bête. Celle qui a la plaie du glaive et qui a repris vie. Quand même curieux, hein ? Trois fois. Cherchez la signification. Je vous donne une piste, mais il y en a sûrement d'autres. Il faut chercher. C'est important pour nous d'essayer de dépister les voies d'accès par où passe la bête de la mer et de la terre. C'est comme des chasseurs qui voient les traces du sanglier. Il faut avoir ce sens-là de voir les traces. Il ne faut pas rêver tout le temps au démon. Mais il est bon de voir ces traces et de les reconnaître. Et ne pas appeler ce qui est de Dieu, ce qui est du démon. Par, soi-disant, par miséricorde. Ce sont des fausses miséricordes. On doit chercher la vérité. Et dès qu'il y a le mensonge, c'est plus de Dieu. Vous êtes farouche là-dessus. C'est Saint Jean qui nous dit ça. C'est Saint Jean. Lui qui est si doux. Mais il est farouche. Le mensonge est toujours le signe que le démon a pénétré. Ah, il faut continuer d'être infiniment miséricordieux pour les personnes, c'est évident. Plus elles sont accablées, plus elles sont ensorcelées, plus il faut être miséricordieux. Mais leurs faits et gestes, leurs paroles, ça, il faut les regarder bien en face. Donc, disons à ceux qui habitent sur la terre de faire une image pour la bête. Il lui fut donné de donner un esprit à l'image de la bête. Vous voyez, le pneuma, l'antipneuma, ça va jusque-là. Donner un esprit à l'image de la bête pour que l'image de la bête et fasse en sorte que tous ceux qui ne se prosterneraient pas devant l'image de la bête soient tués. Vous voyez, voilà la tyrannie. L'image de la bête devient l'idole. Donc, est annoncée ces idoles modernes faites par les hommes. Vous voyez, la bête de la mer, c'est les blasphèmes. La bête de la terre, c'est les idoles. Le partage est très net entre les deux. Fabrication d'idoles, c'est l'image de la bête. Et de l'autre côté, c'est les non-blasphèmes. Donc les idéologies athées d'un côté, et la fausse liturgie de l'autre. Au cœur de la liturgie, c'est toujours l'adoration. Alors, l'idolâtrie implique une autre liturgie. Et ça, c'est la bête de la mer. C'est la bête de la terre. C'est entre pratique, c'est pas l'intelligence. Vous voyez, perversion de l'intelligence, perversion du cœur. Et je dirais perversion de notre volonté pratique, de notre volonté religieuse. C'est la perversion de la volonté religieuse. Oui, quant au nom d'idéologie athée, le positivisme, on dit que la création s'explique par la science. Je crois qu'on l'a là. À partir de là, on a comme la perversion de l'attitude religieuse. Il n'y a plus de fondement. Et alors, cette fabrication de l'image de la bête, il lui fut donné de donner un esprit à l'image de la bête, pour que l'image de la bête parle et fasse en sorte que tous ceux qui ne se prosterneraient pas devant l'image de la bête soient tués. Et elle fait que tous, les petits et les grands, les riches et les pauvres, les hommes libres et les esclaves, on leur met une marque sur leur main droite ou sur leur front pour que personne ne puisse acheter ou vendre. Sinon, celui qui a la marque, le nom de la bête ou le chiffre de son nom. Voyez ? Ce réseau impitoyable qui est marqué du nom de la bête. D'ordre pratique. Et qui a montré de cette manière-là que vous n'avez plus qu'une seule solution, c'est d'attendre la disparition. Ici est la sagesse. Donc l'habitus de sagesse, don du Saint-Esprit, que celui qui a de l'intelligence calcule le chiffre de la bête, car c'est un chiffre d'homme et son chiffre est 666. Voyez que c'est la bête de la terre qui domine, téléguidée par la bête de la mer, elle-même entièrement remise au dragon. Il y a comme une espèce de singerie démoniaque du mystère. C'est ça qui est la position anti-père, anti-fils, anti-église, anti-mari. Et on voit bien ces trois aspects qui se tiennent. Et la clé, je crois que la clé, c'est les blasphèmes qui sont sur la tête de la bête de la mer. Il me semble. Et puis l'aspect ultime, c'est l'image de la bête. L'icône, l'image de la bête. Cette image de la bête qui est comme l'œuvre propre de la bête. Tout le soin lui fut donné de donner un esprit à l'image de la bête. Quand on donne un esprit à l'Église, comme marié, qui ne fait qu'un avec l'esprit, pour que l'image de la bête parle. Ça, c'est la chose la plus extraordinaire. Faire parler l'image de la bête. Alors, le Père a surestimer un esprit ou un souffle. Parle un type bien connu des prestiges, de la superstition dans l'Antiquité, par ventriloquie, où on a, en introduisant quelqu'un dans une statue creuse, on la fait parler, rendre des oracles, dénoncer du suspect. Tout ça est grossier comparativement à ce qui se passe aujourd'hui. Bien plus unique aujourd'hui. C'est ça qu'il faut comprendre. Je crois qu'en effet, qu'on trouve des. Les idoles reviennent tout le temps. Parce que quand on a supprimé Dieu, on a besoin d'idoles. On a besoin d'appui. Se mettre bien. Et aujourd'hui, les idoles sont bien plus subtiles. Tout en tombant tout le temps dans quelque chose de très grossier. Tout le temps, il y a toujours la supercherie. Cette idolâtrie très spirituelle qui consiste à livrer son intelligence au démon et à se laisser, si vous voulez, adorer uniquement les choses extérieures. Et vous voyez, tout ça est lié à l'homme. Sépare l'homme, que le démon attaque l'homme, comme c'est par l'homme que Dieu sauve l'homme. Et là encore, cette espèce de d'imitation grossière, mais imitation. Et je vis, voici l'agneau debout. Alors c'est toujours un peu la perspective de l'Apocalypse. C'est qu'au moment où on a l'impression que tous les hommes sont complètement fichus et adorent la bête de la terre, alors on voit le triomphe de Dieu. Cette montée dans le ciel. C'est très très curieux. Et c'est tout le temps comme ça. Donc il y a les habitants de la terre. Et les habitants de la terre sont tous sous le joug de la bête de la terre et la bête de la mer. Heureusement qu'il n'y a pas les habitants de la terre. Il y a autre chose. Et je vis. Et voici l'agneau debout sur le mont Sion. Et avec lui, 144 milliers ayant son nom et le nom de son père écrit sur leur front. Et j'entendis une voix venant du ciel comme la voix des grandes eaux.